La porteuse de pain, première partie, chapitre 36 à 40.
Avez-vous longtemps habité Paris, mademoiselle ? Poursuivit Jacques Garot.
3 mois seulement, répondit Noémie.
C'est à peine si j'ai pu voir ce que la grande ville offre de plus curieux.
J'aurais voulu y passer une année au moins,
mais il n'a pas été possible à mon père de donner satisfaction à mes désirs.
Ses affaires le rappellent à New York, où je vais rentrer un peu malgré moi, après ce trop court voyage.
Je comprends cela, quoique je m'éloigne sans regret de Paris.
Vous ne quittez pas la France pour toujours ?
Pour toujours, j'espère bien que non, mais pour un laps de temps dont je ne puis, quant à présent, déterminer la durée. Qui sera longue, je crois.
Moi aussi, je vais à New York.
Vous y avez des parents ?
Pas un seul.
Des amis, du moins.
Je n'y connais personne.
Ah ? Fit la jeune fille.
Jacques continua. Je suis mécanicien et je me propose de faire des études dans différentes maisons dont on vante les merveilleuses inventions. La maison Mortimer, surtout.
Noémie regarda son interlocuteur en souriant.
« Parlez-vous de la maison James Mortimer ? » demanda-t-elle.
« Oui, mademoiselle, la maison James Mortimer, dont le chef possède en Europe la réputation d'un homme de génie.
Connaissez-vous celui dont vous faites un si bel éloge ? » ?»«
Non, mademoiselle, comment le connaîtrais-je, puisque je vais pour la première fois en Amérique ? » répliqua l'ex-contremaître avec un aplomb superbe.
« Et votre intention est de vous rendre chez lui en arrivant à New York ?»
Ma première visite sera pour lui, mademoiselle. Je me réclamerai du titre de très humble confrère du grand homme et je le prierai de vouloir bien me permettre de visiter, en admirateur qui veut s'instruire, ses splendides ateliers.
Alors, continua la jeune fille avec un nouveau sourire,
alors il vous serait sans doute agréable d'être présenté à James Mortimer.
Introduit, comme nous disons nous autres Américains.
Rien ne me serait plus agréable, je l'avoue. Une présentation en règle m'éviterait un moment d'embarras facile à comprendre.
Et que je comprends.
Mais je vous affirme que James Mortimer aime infiniment les Français.
Vous en êtes sûr ?
Oh, parfaitement sûr. Et je vous offre d'être votre introductrice auprès de lui.
J'accepte avec reconnaissance.
Vous le connaissez beaucoup, mademoiselle ?
Beaucoup, et je l'aime de tout mon cœur. C'est mon père.
Ces derniers mots, avons-nous besoin de le dire, amenèrent un petit coup de théâtre prévu de nos lecteurs. Le faux Paul Armand joue à la stupeur en comédien consommé.
« Votre père ! » s'écria-t-il ensuite.
« Ah, mademoiselle, quelle surprise !
Qui pouvait s'attendre ?
Si j'avais su ! »
« Auriez-vous parlé de mon père autrement que vous ne l'avez fait ? » demanda Noémie en riant.
« Non, certes, puisque mes paroles exprimaient ma pensée tout entière. »
C'est donc avec la certitude de vos sentiments de sympathie très vifs pour mon père que je vais vous présenter à lui.
J'en serai bien fière et bien heureux, mademoiselle, et je bénis le hasard qui amène ce rapprochement impossible à prévoir.
Comment vous nommez-vous, monsieur ?
Paul Armand.
Venez avec moi.
Noémie quitta le tabouret du piano et, suivie de l'ex-contremaître, se dirigea vers James Mortimer, toujours absorbé dans sa conversation avec son ami l'Américain.
Pardonnez-moi, messieurs, d'interrompre un instant votre entretien, dit-elle aux deux hommes, mais je désire, mon père, vous présenter quelqu'un.
Quelqu'un ? Répéta Mortimer, un peu surpris.
Oui, quelqu'un qui fait le voyage de France à New York, tout exprès pour vous rendre une visite.
Le hasard a permis que monsieur, sans me connaître, fût conduit à m'expliquer le but de son voyage, et j'ai pensé qu'il ne fallait pas lui laisser continuer ce voyage sans le mettre en rapport avec l'homme que si justement il tient en haute estime.
Mon père, permettez-moi de vous présenter un Français, M. Paul Armand, mécanicien comme vous.
James Mortimer fit 2 pas vers le prétendu cousin d'Ovide Soliveau et lui dit. Soyez deux fois le bien accueilli, monsieur, et comme citoyen d'un grand pays que j'aime, et comme présenté par ma chère fille. Vous êtes mécanicien comme moi, travailleur comme moi. Voulez-vous me donner la main? C'est un honneur dont je suis fier autant que je suis touché de la bienveillance de votre accueil, s'écria Jacques Garot en serrant la main que l'ingénieur lui tendait avec la plus franche cordialité. Nous sommes désormais de vieilles connaissances, reprit Mortimer. Donc, plus de phrases cérémonieuses. Je vous présente à l'un des princes de la finance américaine, Richard Davidson, mon ami et mon banquier.
Disposez de moi, monsieur, fit le banquier. Si je puis vous être utile, je le ferai de grand cœur.
L'ex-contremaître témoigna sa gratitude. Les trois hommes s'assirent. Noémie retourna s'installer au piano.
Si j'ai bien compris ma fille, dit Mortimer à Jacques, vous vous rendez à New York avec l'intention de venir me voir?
Vous avez parfaitement compris. J'ai l'intention de monter en France une fabrique modèle. Je voyage afin d'étudier les différents procédés d'outillage, et vos ateliers m'ayant été cités comme incomparables sous tous les rapports, je me proposais de solliciter de vous l'autorisation de les voir.
Autorisation qui vous est accordée d'avance.
Vous les visiterez, vous les étudierez à loisir.
Mes ateliers, j'ai l'amour-propre de le croire et d'en tirer quelques vanités, sont les premiers du monde, mais ils ne sont construits que pour la mécanique industrielle.
Celle qui rapporte le plus, et à laquelle je dois le peu que je possède, interrompit Jacques.
En effet, elle est lucrative. Mes machines à coudre perfectionnées m'ont rapporté des sommes fort rondes.
Vos machines à coudre perfectionnées, je les connais, dit Jacques. J'en ai même fait une étude approfondie.
Y trouvez-vous quelque chose de défectueux?
Me permettez-vous la franchise?
Sans doute, j'aime la franchise, même quand elle est brutale.
Je n'ai nullement d'ailleurs la prétention d'être infaillible, et je crois que la perfection même est perfectible.
Je ne veux point parler du mécanisme, il est irréprochable. Je reproche à vos machines leur trépidation violente et bruyante, fatigant ceux qui les font mouvoir et ceux qui les entendent.
Vous voudriez obtenir le silence de la machine?
Oui.
Voilà 5 ans que je le cherche inutilement.
Vous avez mal cherché?
L'avez-vous trouvé, vous?
Peut-être. En théorie.
Oui, mais j'ai la certitude, vous entendez, la certitude qu'il est facile de passer de la théorie à la pratique.
Est-il indiscret de vous demander comment?
Nullement. Je suis trop heureux de causer avec vous de l'une de vos créations les plus réussies et d'attirer votre attention sur un point qui vous paraît difficile et qui me semble à moi la chose du monde la plus simple.
La plus simple? Répéta Mortimer.
Mon Dieu, oui.
Expliquez-vous, je vous en prie.
Je vais le faire. Un petit croquis vaudra mieux que la plus longue explication.
Et le faux Paul Armand, tirant de sa poche son agenda, l'ouvrit et se mit à dessiner rapidement, sous toutes ses faces, la machine à coudre perfectionnée de James Mortimer.
Ce dernier regardait avec étonnement. Le coup de crayon du faux Paul Armand lui semblait d'une merveilleuse habileté. Le banquier Richard Davidson et Noémie, qui s'étaient rapprochés des causeurs, admiraient ainsi que Mortimer la dextérité du français.
« Voici bien exactement le plan du mécanisme de votre machine, n'est-ce pas ? » demanda Jacques.
« Oui, monsieur, très exactement.
Alors, suivez bien mon raisonnement, je vous prie. »
Et Jacques, avec une facilité et une clarté d'élocution due à son indiscutable talent de mécanicien pratique, démontra qu'il suffisait d'introduire dans le mécanisme en question quelques légers changements pour obvier aux défectuosités de la machine à coudre. Mortimer, profondément intéressé par ce qu'il entendait, suivait avec une attention avide les déductions logiques du français.
« Mon cher confrère, s'écria-t-il quand Jacques eut terminé sa démonstration, vous êtes un homme de premier mérite. Votre théorie est admirable. Vous venez de créer la machine à coudre complètement et définitivement perfectionnée que vous pourriez appeler la silencieuse.
Cette machine portera votre nom, monsieur, car je vous autorise à l'exploiter et je prends l'engagement formel de n'en jamais revendiquer l'idée.
Cela, je ne l'accepte pas.
Pourquoi donc?
Parce qu'en m'abandonnant cette idée, vous m'abandonneriez la somme énorme qu'elle rapportera.
Une somme énorme? Répéta Jacques Garot en souriant. « Je crois, monsieur, que vous exagérez. mais en admettant même que ce soit exact, je n'en maintiens pas moins l'engagement que j'ai pris tout à l'heure.
Voilà un galant homme et un homme sûr de sa force, pensa Mortimer. Quel associé j'aurais en lui! La maison que nous dirigerions ensemble serait sans rival.
Le faux Paul Armand observait à la dérobée l'Américain. Il sut lire sur sa physionomie une partie de ce qui se passait dans son esprit.
James Mortimer reprit. « Inutile d'insister, mon cher confrère. Je n'accepterai votre offre que dans un seul cas.
Lequel ?
C'est que nous exploiterons en commun la machine à coudre perfectionnée par moi et complétée par vous. »
L'ex-contremaître secoua la tête.
« Je vous remercie de cette proposition, dit-il, mais j'ai d'autres idées. »
« Vous me refusez ? »
« Oui. »
« Pourquoi ? »
« À quoi bon une association pour si peu de choses ? Je ne sais pas d'ailleurs si je me déciderai à rester en Amérique. »
« Avez-vous donc changé d'avis, monsieur ? » demanda Noémie. « Ne me disiez-vous pas, il y a tout au plus 5 minutes, que vous comptiez au contraire y rester longtemps ?»«
Tel est en effet mon projet, mais la réalisation de ce projet se subordonne à certaines choses indépendantes de ma volonté. Je m'occupe d'un grand travail qui doit donner des résultats immenses. Quand j'aurai achevé l'étude des progrès de la mécanique américaine, je verrai si je dois me fixer à New York ou retourner en France.
Admettez-vous, en principe, l'idée d'installer des ateliers en Amérique ? Fit vivement James Mortimer, craignant de voir un concurrent redoutable dans ce Français dont à première vue il reconnaissait le mérite.
Pourquoi non, le cas échéant ?
Il s'agirait alors d'exploiter une invention nouvelle ?
Oui, une invention qui n'a aucun rapport avec les machines à coudre. C'est une machine à guillocher.
Jacques, instruit par son entretien avec Ovid Soliveau, venait de frapper un coup décisif. En entendant parler de machine à guillocher, James Mortimer tressaillit visiblement. Le faux Paul Armand espéra qu'il allait se livrer, mais il n'en fut rien. Il se tint sur la réserve.
« Moi aussi, dit-il d'un air d'indifférence, je me suis occupé de cela. Mais il n'y a pas à faire mieux que les Genevois. Leurs machines sont parfaites.
Pour guillocher les surfaces planes, assurément, répliqua Jacques.
Mais ceci est le pont aux ânes. Il faut progresser.
L'Américain sentit une sueur froide mouiller ses tempes.
Aurait-il eu la même idée que moi ? Pensa-t-il. Puis il ajouta tout haut. Croyez-vous donc qu'il soit possible d'obtenir une machine capable de guillocher les talons renversés, les courbes ?
J'en suis sûr.
Mortimer pâlit. « Vous avez trouvé cela ? » fit-il d'une voix agitée.
« J'ai trouvé, » répondit froidement Jacques, laissant tomber une à une ses paroles.
« Mes plans sont tracés, mes épures sont achevées, ainsi que les dessins des moules à faire pour envoyer à la fonderie, à la forge et à l'étau. Et comme j'avais l'honneur de vous le dire tout à l'heure, je verrai si je dois me fixer à New York pour établir cette machine et d'autres dont j'ai les projets en tête. »
De pâle qu'il était, Mortimer devint livide. « C'est bien un concurrent, se dit-il, le plus redoutable qui se puisse imaginer, un concurrent qui peut me causer un préjudice incalculable. Il faut parer le coup sans perdre une minute, et d'un désastre faire un triomphe. » Puis d'une voix insinuante, il demanda, « Voulez-vous me permettre, mon cher confrère, de vous parler avec une entière franchise ?»
Non seulement je vous le permets, mais je vous en prie.
Si vous ne vous illusionniez point,
et je le crois, car vous venez de me fournir la preuve de votre savoir, vous avez fait une invention qui doit vous donner en peu de temps une fortune colossale. Mais vous allez arriver à New York où vous ne connaissez âme qui vive. Vous serez obligé de vous mettre au courant de nos mœurs, de nos façons de vivre, des coutumes de nos ouvriers. Il vous faudra créer une usine, agencer des ateliers. Cela vous prendra beaucoup de temps et vous coûtera des sommes folles.
Sans doute, mais le moyen de faire autrement ?
Il existe.
Je ne le connais pas.
Je vais vous l'apprendre. Voici ce que je vous propose. Devenez mon associé. Prenez la direction de mes ateliers. Vous pourrez chez moi vous mettre immédiatement à l'œuvre et construire sans retard la silencieuse et la machine à guillocher. En arrivant à New York, nous signerons le contrat d'association, qui vous assurera la moitié des bénéfices de ma maison
et je vais, à titre de prime, vous remettre un chèque de 50 000 $ sur mon ami le banquier Richard Davidson que voilà, et qui le paiera à présentation.
« Mais, mon cher confrère, » commença Jacques Garot, qui ne voulait pas, quoique ivre de joie, avoir l'air de céder trop vite.
« Oh, je vous en prie, monsieur, acceptez !» interrompit Noémie d'une voix presque suppliante, en accompagnant ses paroles d'un regard irrésistible. « Vous ne pouvez pas refuser l'association que mon père vous propose. Vous ne pouvez pas refuser de devenir notre ami.
Vous voyez que ma fille se joint à moi !» s'écria Mortimer en riant. « Elle ne vous cache point sa sympathie. C'est comme ça que nous élevons les jeunes filles en Amérique, et nous ne nous en trouvons pas mal. Si vous n'aviez fait tout d'abord la conquête de Noémie, elle ne vous aurait point présenté à moi.
« Est-ce vrai, fillette ?»«
C'est vrai, père.
Acceptez donc, mon cher confrère.
La sympathie de mademoiselle a sur moi plus d'influence que toutes les considérations pécuniaires, » répliqua Jacques.
« J'accepte. Une poignée de main, alors. Voilà, notre association conclue.
À propos, êtes-vous marié ? »
En entendant cette question, Noémie rougit jusqu'au blanc des yeux.
« Je suis garçon, » répondit l'ex-contremaître avec un sourire.
« Je vous offre donc un appartement dans ma maison.
Vous ne le refuserez pas ?»«
Non, certes, et je ne sais comment vous témoigner ma reconnaissance. »
Jacques Garot ajouta tout bas. « Avant 3 mois, je serai le gendre de James Mortimer. Décidément, le diable est pour moi. »
Le reste de la journée s'écoula rapidement. Le dîner fut gai, amplement arrosé de vin de champagne, et on se sépara fort tard. Une fois dans sa cabine et étendu sur sa couche étroite, l'ex-contremaître ne dormit pas. Des préoccupations de plus d'une nature assiégeaient son esprit. Le misérable venait de profiter, avec une merveilleuse habileté, de l'occasion qui se présentait à lui. La fortune lui souriait. Il allait, en arrivant à New York, toucher une jolie somme et partager tous les bénéfices de la fabrique de James Mortimer. De plus, il se croyait certain de devenir à courte échéance le gendre de l'ingénieur. Tout cela était splendide. Seulement, sinon pour signer l'acte d'association, du moins pour épouser Noémie, il fallait présenter des papiers en règle. Ces papiers, il ne les possédait point, et quand il les ferait réclamer en Bourgogne, ne répondrait-on pas « Polarment est mort ?» La réflexion rassura quelque peu Jacques Garot. Il suffirait de demander copie de l'acte de naissance de Paul Armand et des actes mortuaires de son père et de sa mère. L'usage auquel étaient destinés ces actes ne regardait personne. Restait Ovid Solivo. « C'est à lui que je dois d'avoir joué ce soir mon rôle d'une façon si complète, » pensait Jacques. « Mais il est dangereux. Ses doutes sur mon identité, s'il en a de naissant, peuvent grandir. Dans tous les cas, il revendiquera sans cesse auprès de moi son titre de cousin, ce qui sera gênant et ridicule. Il faudrait le tenir dans ma dépendance. Mais comment ? J'aviserai. »
Un peu avant la fin de la nuit, Jacques Garot s'endormit. Il avait chassé les idées noires et se disait avec un effrayant cynisme « Les plans de mon ci-devant patron m'ont porté bonheur. » À 11 heures du matin, James Mortimer, sa fille et le faux Paul Armand se trouvaient réunis au salon de conversation avant le déjeuner. La journée presque entière fut employée par les deux hommes à établir les bases de l'acte de société. Des signatures préliminaires furent échangées et l'Américain remit aux Français un chèque payable à vue chez le banquier Richard Davidson. Un peu avant le coucher du soleil, on monta prendre l'air sur le pont du paquebot. Beaucoup de passagers s'y trouvaient déjà, regardant avec les lunettes marines un navire qui marchait dans la direction opposée, allant d'Amérique en Europe, et qui devait passer à quelques encablures du Lord Mer. Jacques laissa Mortimer et Noémie les yeux fixés sur l'horizon et se rapprocha du gaillard d'avant. Il songeait à se concilier la bienveillance de son prétendu cousin en mettant quelques louis à sa disposition. Sur le gaillard d'avant, comme à l'arrière du paquebot, et pour le même motif, la foule était nombreuse. L'ex-contremaître fouilla du regard cette foule qui s'entassait le long du bordage de droite, et il aperçut Ovid Solivo. Jacques allait s'avancer pour rejoindre le Dijonnais, et brusquement il s'arrêta. Ovid venait de se placer derrière un homme âgé déjà, s'accoudant sur le bastingage. une lame d'acier, que cependant il cherchait à dissimuler, brillait dans sa main droite. L'attitude de Soulivo parut singulièrement suspecte à Jacques Garot, qui riva sur lui ses yeux. Il le vit allonger sa main gauche vers le par-dessus du passager, placer devant lui et en relever légèrement les pans. Jacques aperçut alors une sacoche de cuir suspendue à une mince courroie passée sur l'épaule. Ovide, se croyant bien caché par un groupe attentif à la marche du steamer qui s'avançait à toute vapeur, étendit la main droite. La lame d'acier brilla. Le vieillard fit un mouvement. Le Parisien laissa retomber les pans du par-dessus. Jacques Garot comprit à l'instant même ce qui se passait. « Ah ah » murmura-t-il, « le cousin Soulivo me semble avoir plusieurs cordes à son arc. » Au métier de mécanicien, il ajoute celui de voleur à la tire. Le gaillard cumule. Pour le moment, il en veut à la sacoche de ce pauvre vieux bonhomme qui ne se défie point. Soudain, le faux Paul Armand fronça le sourcil et sentit un petit frisson courir sur sa peau. « Tonnerre !» se disait-il avec épouvante. « S'il était pris à commettre ce vol, pincé en flagrant délit, on l'arrêterait et il se recommanderait de moi. Cousin d'un voleur ? Ce n'est pas ça qui consoliderait ma situation auprès de James Mortimer. Il faut empêcher un si fâcheux incident de se produire. Et je vais... » Jacques n'acheva point sa phrase. Une autre pensée lui traversa l'esprit. « Je le tiens, » pensa-t-il. « Le hasard vient de m'envoyer le moyen que je cherchais cette nuit. Le drôle est à moi, pieds et poings liés. » Reprenant alors sa marche un instant interrompue, il se trouva bientôt à deux ou trois pas d'Ovid Soulivo, qui ne se doutait point de son approche. Le steamer, en ce moment, croisait le paquebot. À la pointe de l'un de ses mâts se déployait le pavillon tricolore. Une voix cria « C'est un navire français ! Bonne route ! Bonne route !» Toutes les têtes se découvrirent, tous les bras s'élevèrent, agitant les chapeaux, et sans voix répétèrent ces deux mots. « Bonne route !» Les passagers du steamer français répondirent par des acclamations pareilles, et les deux navires continuèrent leur chemin, s'éloignant aussi vite qu'ils s'étaient rapprochés. Le vieillard, porteur de la sacoche convoitée par Ovid, était un des plus enthousiastes. Il agitait frénétiquement son chapeau. Le Dijonnais guettait le moment opportun et n'avait garde de le laisser échapper. Tandis que le passager levait le bras et criait à pleine gorge, Ovid glissa sa main gauche sous le par-dessus, puis envoya sa main droite rejoindre la main gauche. Une lame de rasoir trancha net la courroie, et moins d'une seconde après, la sacoche ayant changé de maître, se trouvait cachée sous la vareuse d'Ovid. Celui-ci fit alors volte-face en pirouettant sur ses talons, et se trouva face à face, ou comme on dit vulgairement, nez à nez, avec son prétendu cousin. Le faux Paul Armand, immobile, les sourcils froncés, l'air sombre et sévère, étendit le bras et laissa tomber sa main sur l'épaule du mécanicien. En même temps, d'une voix étouffée, il lui jeta ces mots au visage. « Que viens-tu de faire, voleur ?» Ovid chancela et devint très pâle. Cependant, il ne perdit pas tout à fait la tête et balbutia. « Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, cousin ?» Jacques lui saisit le poignet et l'entraîna dans un endroit isolé. « Je dis, » reprit-il les dents serrées, « je dis que j'ai tout vu, que tu vas me remettre à l'instant le sac de cuir volé par toi, à l'homme derrière qui tu te trouvais. » Ovid, se sentant pris, fut frappé d'épouvante. « Pitié, grâce, » fit-il éperdu. « Cousin, je t'en supplie, ne me dénonce pas. Oui, je suis un gredin. Oui, c'est vrai, j'ai volé. Mais ce n'est point ma faute. Le désir de me trouver riche me rendait fou. Je ne savais ce que je faisais. « Silence !» commanda le faux Paul Armand. « Tu viens de commettre un crime que rien au monde ne peut rendre excusable. Quand je pense que tu es de ma famille et que tu la déshonores, je ne sais ce qui me retient de te briser la tête d'un coup de revolver ou de te conduire au capitaine du paquebot et de lui dénoncer ta honteuse action. » Ovid chancelait sur ses jambes. Ses dents claquaient. « Non, non, non » bégaya-t-il. « Tu ne feras pas cela. Pitié pour un malheureux égaré. Pardonne une faiblesse. » « Une faiblesse dont tu dois être coutumier, si j'en juge par la dextérité, par le sang-froid, par l'adresse dont tu as fait preuve. C'est la première fois, je te l'affirme. Je te le jure. ne jure rien. Me crois-tu par hasard assez naïf pour croire au serment d'un voleur?
Cependant, tais-toi et donne-moi ce sac. »
Ovide tendit l'escarcelle à Jacques Garraud, qui la prit et continua. « Tu sais ce qu'il y a là-dedans ? » ?
« Oui, de l'or et des billets. »
« Pour quelle somme ? » ?
60 000 francs à peu près.
« Bien, attends-moi là. » Le Parisien regardait avec stupeur son prétendu cousin.
« Que vas-tu faire ? »
demanda-t-il d'une voix tremblante.
« Tu ne le devines point ? » ?»«
Non, je vais rendre cette fortune à son légitime propriétaire. »
Mais, commença Ovide en frissonnant,
pas un mot de plus. Et après avoir accompagné ses paroles d'un regard sévère, l'ex-contremaître se dirigea vers le passager aux cheveux blancs.
Pardon, monsieur, lui dit-il en l'abordant et en lui présentant le sac de cuir. Cette sacoche est bien à vous ?
Le voyageur porta vivement la main à son côté.
Volée ! S'écria-t-il avec effarement.
De quoi vous plaignez-vous, puisqu'on vous rend votre bien ?
Reprit Jacques en souriant. « Voici l'escarcelle qui vous manque. Voyez si son contenu est intact. »
Sans perdre une seconde, le vieillard tira de sa poche une petite clé, ouvrit précipitamment la sacoche que Jacques venait de lui remettre et en visita le contenu.
« Non, non, il n'y manque rien, » fit-il ensuite avec joie. « Tout y est, toute ma fortune, monsieur. 70 000 francs, difficilement amassés en 30 années de travail et que je porte à ma fille. »
« Mais comment cette sacoche se trouve-t-elle entre vos mains ?
Veuillez me suivre, je vous l'expliquerai. » Et le prétendu Paul Armand se dirigea vers Ovide, qui, pâle comme un mort, suivait du regard tous ses mouvements. Le vieillard l'accompagna. Jacques s'arrêta en face d'Ovide, dont les jambes flageolaient et qui aurait donné beaucoup pour se trouver en ce moment dans le plus obscur réduit du fond de la cale.
« Voilà l'homme qui vous a volé, » dit l'ex-contremaître. Et comme le passager voulait parler, il l'interrompit en continuant. « Je connais ce drôle, et je désire qu'il ne soit point arrêté, ce qu'il mériterait cependant. Mais j'exige qu'il vous fasse l'aveu de son crime et qu'il sollicite votre pitié. » Il n'y avait pas à hésiter.
Ovide s'empressa de balbutier d'une voix éteinte. « J'avoue, monsieur, j'avoue. J'avoue et je vous supplie de me pardonner. »
« Je vous pardonne à la requête de monsieur, » répliqua le passager d'un ton méprisant. « Allez vous faire pendre ailleurs, car la potence vous réclamera certainement un jour ou l'autre. Je me souviendrai de votre visage. Moi aussi je vais à New York, et je connais monsieur Mortimer chez lequel vous allez travailler. Vous m'avez raconté tout à l'heure le but de votre voyage. Je vous écoutais trop confiant, et je me figurais naïvement avoir affaire à un honnête et habile ouvrier. Vous pouvez être habile, mais vous êtes un gredin, et il suffirait d'un mot de moi pour ouvrir les yeux à votre patron. »
Ovide bégaya quelques mots de supplication à peu près indistincts.
« Je devrais le faire, » poursuivit le passager. Jacques intervint. « La leçon lui suffira, » dit-il. « Au moins, je l'espère. Je vous demande pour lui le silence sur cette triste affaire. Je vous répète que cet homme m'est connu. Je connais aussi sa famille. Elle est des plus honorables. Sa punition et son déshonneur retomberaient sur elle. Pour sa famille, et surtout pour vous, monsieur, qui m'avez rendu ma fortune volée, je garderai le silence. Mais je veux savoir le nom de cet homme. S'il refusait de me l'apprendre, je le chercherai sur la liste des passagers. Il se nomme Ovide Soliveau, dit le faux Paul Armand. L'ouvrier mécanicien était vert d'épouvante.
Ovide Soliveau ? Répéta le passager.
Je connais ce nom.
Ah, je me souviens. C'est celui d'un particulier, originaire de la Côte d'Or, contre lequel j'ai eu entre les mains à Paris un mandat d'amener pour vol avec effraction.
Jacques Garraud regarda fixement Ovide, qui semblait défaillant et ne songeait même point à nier. J'ignorais le passé de cet homme, dit-il ensuite, mais par considération pour sa famille, je continuerai à le couvrir de ma protection.
Vous m'avez promis le silence.
Et je tiendrai ma promesse, monsieur, car ma reconnaissance vous est acquise. Je me tairai, et pour le crime passé, et pour le crime présent. Mais je n'oublierai pas. Et si quelque nouveau méfait remet un jour ce drôle en ma présence, je serai sans pitié.
Puis le vieux passager, tendant la main à Jacques, ajouta : Vous venez de faire une bonne action, monsieur.
Si jamais vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, de jour ou de nuit, à New York, où je rejoins ma fille, souvenez-vous que vous pouvez compter sur moi. Je me nomme René Bosque. Je suis français. J'ai fait partie de la brigade de sûreté. Je viens d'obtenir ma retraite et je vais vivre en famille au numéro 56 de la 11e avenue. En entendant ces mots, j'ai fait partie de la brigade de sûreté, Ovid n'avait pu retenir un nouveau mouvement d'épouvante. Jacques Garot lui-même, quoiqu'il ne fût point en cause, éprouvait une assez vive émotion dont la cause nous paraît facile à deviner. Mais il reprit aussitôt son calme. René Bosque, 11e avenue, numéro 56, répéta-t-il. Je n'oublierai ni votre nom, ni votre adresse, monsieur. Et peut-être aurai-je un jour ou l'autre recours à vous, car je vais moi-même habiter New York. En me donnant l'occasion de vous prouver ma reconnaissance, vous me rendrez heureux. Et maintenant, monsieur, permettez-moi de vous prier de me laisser seul avec cet homme. L'ex-agent de la sûreté tendit la main au faux Paul Armand et s'éloigna, après avoir jeté un regard méprisant sur Ovid Soliveau. Celui-ci resta la tête basse en face de Jacques. « Ainsi, lui dit ce dernier d'une voix sourde d'abord, « toi que le hasard me fait rencontrer sur ce navire, toi que les liens du sang unissent aux Armand, dont la réputation a toujours été sans tache, toi que j'étais heureux de retrouver, tu n'es qu'un misérable coquin, un scélérat traqué par la police, un voleur de profession ?» Jacques élevait un peu la voix. « Pas si haut, cousin, je t'en supplie, pas si haut !» balbutia Ovid, dont la bouche était sans salive et la gorge serrée. « Puisque le vieux, grâce à toi, ne me dénoncera point, il est bien inutile de faire connaître à tout le monde ici ce qui s'est passé. J'ai eu un moment de vertige, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas riche. Une faiblesse, ça se pardonne, que diable! J'avais vu l'or et les billets, ça m'avait tourné la tête. » Puis Ovid, pleurnichant, ajouta d'un ton d'indicible hypocrisie. « Ah, cousin, tu as été ma providence en m'empêchant de commettre une mauvaise action. Tu reconnais alors que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait. Je le reconnais, je le proclame. Tu ne regrettes point la grosse somme que tu avais volée ?» Ovid hésita avant de répondre. « Tu as envie de devenir riche à tout prix ?» poursuivit Jacques. « Ton hésitation le prouve. Dame, la richesse, c'est tout. Le sac de cet ancien agent de la sûreté contenait 70 000 francs. Joli chiffre, murmura le gredin avec un accent de regret manifeste. Joli, oui, mais ce n'était pas la fortune. Et si tu veux m'obéir, je ferai la tienne. Vrai? Foi de Paul Armand? Mais je suis à toi corps et âme, cousin. À moi fidèlement, sans arrière-pensée? Parbleu, est-ce que je ne dépends pas de toi à cette heure? Est-ce que ce René Bosque que tu as fait taire ne parlerait pas si tu lui donnais l'ordre de parler? Est-ce que toi-même tu ne pourrais pas me faire arrêter si la fantaisie t'en prenait? C'est vrai, mais la fantaisie ne m'en prendra point. Pourvu que le vieux soit homme de parole, s'il allait raconter ma sottise au patron, tu serais perdu. James Mortimer te chasserait de chez lui d'abord et ensuite te ferait expulser des États-Unis. Inutile de craindre cela, d'ailleurs. Je réponds du silence de René Bosque et de la bienveillance de James Mortimer à ton égard. Je m'en charge. Toi ? S'écria Ovid en regardant avec stupeur son prétendu cousin. Écoute-moi, lui dit Jacques à voix basse en se penchant vers lui. Je t'ai jugé tout à l'heure. Je te connais comme si nous avions vécu sans cesse l'un à côté de l'autre. Le vol de la sacoche n'était point ton coup d'essai, puisque René Bosque a eu entre les mains un mandat d'amener contre toi. Cousin, ne cherche pas à nier. Je ne suis pas de ceux qu'on abuse. J'ai la certitude absolue que si l'on faisait des recherches dans les archives du tribunal correctionnel de Dijon, on y trouverait ton nom plus d'une fois répété. Ovid courba la tête. Est-ce que je me trompe ? Demanda Jacques. Oh, des peccadilles ! Murmura le Dijonnais. Des peccadilles qui mènent au bagne. Et je suis certain que René Bosque, en sa qualité d'ancien agent de la sûreté, n'aurait aucune peine, si quelqu'un avait intérêt à l'en charger, à former contre toi un fort joli dossier. Je me tairai, moi, et j'empêcherai René Bosque de parler. Mais tu feras ce que je te dirai de faire. Je suis prêt,
De quoi s'agit-il ?
D'abord, en public, et chaque fois qu'il y aura du monde entre nous, tu sembleras ne point me connaître.
Tu me renies ?
Parfaitement bien, répondit brutalement Jacques. Je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai un voleur dans ma famille.
C'est facile à comprendre, cela,
et tu le comprendras mieux encore quand tu sauras que depuis hier, je suis l'associé de ton patron, James Mortimer.
Toi ? L'associé de Mortimer ?
Fit Ovid au comble de la surprise.
Toi ?
Et j'ajouterai, reprit l'ex-contremaître, qu'étant déjà son associé, je compte bien m'arranger de façon à être son gendre dans 2 ou 3 mois. Peut-être avant.
Mais compliments, cousin !
Ah, tu peux te vanter de savoir conduire ta barque, toi ! Ma position dans la famille Mortimer me rendra tout puissant, pour te servir ou pour te perdre, selon ta conduite. S'il me plaît de t'avouer pour mon parent, je le ferai. Sinon, non. Sois docile à mes volontés, fais en sorte de ne t'attirer aucun reproche, et voici ce que je t'offre. D'ici à 1 mois, tu deviendras un des premiers contremaîtres de l'usine, et je doublerai les appointements que t'a promis James Mortimer. Mais tu seras mon homme, ma chose. Tu n'auras d'autre volonté que la mienne. Tu es ambitieux, je dépasserai tes espérances. Tu aimes l'argent, je te rendrai riche. Acceptes-tu ?
Si j'accepte, s'écria le Dijonnais.
Mais je le crois bien que j'accepte, et avec enthousiasme. D'autant plus que tu me tiendras parole, j'en suis sûr. Toi aussi, tu es ambitieux. Cela se sent. Cela se devine. Et tu as besoin de mon silence, de mon obéissance, de ma complicité, peut-être.
Pourquoi ?
Je n'en sais rien et je ne chercherai point à le savoir. Ça ne me regarde pas. Je suis à toi corps et âme. Ton esclave, ton âme damnée, comme on dit dans les mélos du boulevard. Que faut-il faire ?
Rien avant notre débarquement à New York.
Sauf, je te le répète, d'avoir l'air de ne point me connaître.
Convenu,
mais ça me taquine de ne pouvoir causer ensemble. Quand j'aurai besoin de te parler, c'est moi qui viendrai à toi. Et n'oublie pas que le jour où tu voudrais te soustraire à l'obéissance aveugle exigée par moi, je ne te ménagerai point. J'irai trouver René Bosque et je le chargerai d'écrire au parquet de Dijon et à celui de Paris.
Tais-toi, fit Ovide suppliant.
Sans tenir compte de cette prière, Jacques poursuivit. Quand la justice française saurait qu'un certain Soliveau, recherché pour vol, habite l'Amérique, elle demanderait ton extradition et l'obtiendrait sans doute. Dans tous les cas, James Mortimer, prévenu, te ferait expulser, ce qui pour toi ne vaudrait guère mieux que d'être extradé.
Pourquoi me menaces-tu puisque j'ai juré obéissance ?
Je ne te menace pas, je te préviens, afin qu'aucune velléité de révolte et d'indépendance ne te traverse l'esprit.
Sois paisible, j'obéirai au doigt et à l'œil.
À ce prix, j'oublierai que tu as déshonoré le nom de Soliveau, qui était celui de ma mère. Et maintenant, nous sommes d'accord. Parlons d'autre chose.
Ah, je ne demande pas mieux.
Quel est votre régime en seconde classe ?
Bien médiocre, répondit Ovid d'un ton piteux.
Le cuisinier du bord fait des économies sur notre nourriture. Et les suppléments vendus par la cantine sont de qualité inférieure. À moins qu'on ne les paie très cher.
Jacques tira de sa poche 10 louis.
Nourris-toi mieux, dit-il en mettant les pièces d'or dans la main d'Ovid.
Merci, cousin, s'écria ce dernier redevenu brusquement joyeux.
C'est la dernière fois que tu dois m'appeler ainsi, sauf quand nous nous trouverons complètement seuls.
Aucun danger que je l'oublie.
J'y compte. Jacques Garot rejoignit M. Mortimer et Noémie, qui étaient descendus au salon.
Le vieil agent René Bosque avait été bien servi par sa mémoire. Ovide Soliveau était en effet, et de longue date, un gredin de la pire espèce. L'ex-policier disait vrai en parlant du mandat d'amener lancé contre le mécanicien à propos d'un vol commis avec effraction dans un petit hôtel garni qu'il habitait rue de l'Ouest. Ovid, très malin, avait trouvé le moyen de dépister la police en partageant le logement d'un de ses camarades d'atelier qui ne valait pas beaucoup mieux que lui. Au bout d'un an, on ne s'était plus occupé de cette affaire. Ovid trouva le moyen de passer en Angleterre, se fit recevoir dans un atelier, et comme il savait à fond son état,
Il fut embauché par James Mortimer, qui le fit embarquer avec lui sur le Lord Mare. Là, il devait se croire à l'abri de toute vicissitude nouvelle, lorsqu'une occasion de méfait se présentant, il lui fut impossible de résister à ses instincts pillards. Il céda à la tentation et nous avons assisté au résultat de cette faiblesse. Brigand de sac et coquin de sort, fit le bandit en serrant les poings lorsque le faux Paul Armand l'eut laissé seul. C'est cette sacoche endiablée qui est cause de tout. Et le hasard me fait tomber justement sur un bonhomme de la police. La voilà, la guigne, la voilà. 70 000 francs qui me filent entre les doigts, grâce à mon cousin. J'avais bien besoin de le retrouver ici, ce coco-là. Il aurait bigrement mieux fait de se mêler de ses affaires. Ovide, pendant quelques secondes, sembla s'absorber en de profondes réflexions. Après tout, fit-il ensuite brusquement en relevant la tête, il vaut peut-être mieux que les choses se soient passées ainsi. Me voilà sous la coupe du cousin Armand, c'est vrai, mais je crois que ça me rapportera plus que le sac du mouchard. Ah, il est ambitieux et adroit, le cousin Armand. Il ira loin si rien ne l'arrête. Hier, il ne connaissait pas, ou tout au moins il disait ne pas connaître James Mortimer. Aujourd'hui, le voilà son associé, et je le crois en passe de devenir son gendre. C'est un malin. Il me promet d'emblée une place de contremaître, et je lui crois assez de pouvoir pour me tenir parole. Un rude vénard, le cousin Paul. Mais on ne m'ôtera pas de la tête que si j'ai dans mon passé bon nombre de petits délits, il a dans le sien un mystère qui doit être drôle. Je ne lui crois pas la conscience bien nette. Pour arriver si vite, faut être un peu ficelle. Il me tient, mais je pourrais bien un jour ou l'autre le tenir aussi. Eh, faudra voir. Le diable m'emporte si je ne trouve pas l'occasion de lui faire goûter à la liqueur du Canadien Cuchillino. Et alors, qu'il le veuille ou non, il faudra qu'on sache ce qu'il a dans le ventre. En attendant, je vais me payer avec son argent un Balthazar de première classe. Pendant le reste de la traversée du Lord Mare, aucun incident qui vaille la peine d'être mis sous les yeux de nos lecteurs ne se produisit. Le faux Paul Armand passait ses journées en compagnie de James Mortimer et de sa fille, causant de mécanique avec l'ingénieur de plus en plus enthousiasmé et faisant à Noémie une cour fort bien accueillie, car la blonde américaine commençait à s'éprendre très sérieusement du mécanicien français. James Mortimer s'en apercevait à merveille et ne disait rien. L'idée de voir son associé devenir son gendre dans un avenir prochain lui paraissant très acceptable. Le 12e jour après le départ, on arriva à destination. En quittant le navire pour mettre le pied sur le quai de New York, Jacques Garreau n'eut point à s'occuper de chercher un hôtel. Nous savons déjà que James Mortimer lui donnait un logement dans sa belle maison de la 2e avenue. Dès le lendemain, il prenait la direction des ateliers où Ovid Soliveau entrait comme ajusteur. 3 semaines plus tard, le prétendu cousin de Paul Armand était appelé par celui-ci aux fonctions de contremaître avec des appointements mensuels de 180 $ ou 900 francs. Au bout de 2 mois, Jacques Garreau, devenu tout à fait indispensable à son associé, demandait la main de Noémie que James Mortimer lui accordait avec une joie non dissimulée. L'acte de naissance de Paul Armand et les actes mortuaires de son père et de sa mère, demandés télégraphiquement en Bourgogne, arrivaient sans retard et le mécanicien, sous le faux nom dont il s'était emparé, épousait Noémie. « Il va bien, le cousin, » pensait Ovide. « C'est un rude homme. Mais m'empêche que je voudrais connaître le fond de son sac. Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, je trouverai bien moyen de lui faire goûter ma liqueur entre 4 yeux. Seulement, il faut l'occasion. » Précisément, l'occasion n'était point facile à faire naître, car Paul Armand, tout en protégeant Soliveau, se tenait avec lui sur un pied d'extrême réserve. Ovide ne se décourageait pas. Il prenait patience en se répétant le vieux proverbe. « Tout vient à point à qui sait attendre. » Et il attendait. Noémie se trouvait absolument heureuse. La société James Mortimer et Paul Armand prenait des développements immenses et rien n'égalait sa prospérité. Jacques Garreau, sous sa forme nouvelle, se sentait devenir un homme tout à fait nouveau. Le passé s'effaçait de sa mémoire. Il oubliait son crime. Cependant, il dut s'en souvenir, le jour
où il lut dans un journal français que la nommée Jeanne Fortier, reconnue coupable d'avoir incendié l'usine d'Alfortville et assassiné M. Labroux, le patron de cette usine, venait d'être condamnée en cour d'assises à la réclusion perpétuelle. Le misérable, à qui cette condamnation apportait une nouvelle certitude d'impunité, n'eut pas une pensée de pitié pour la malheureuse femme, sa victime. Il ne se souvint même plus qu'il l'avait aimée et qu'il avait voulu partager avec elle une fortune ramassée dans le feu et dans le sang. Nombre de gens sont convaincus, bien à tort car les erreurs judiciaires sont innombrables, que la justice est infaillible. S'ils croyaient à l'innocence de l'accusé avant le jugement, ils cessent d'y croire dès que la condamnation est prononcée. Les jurés et les juges ne peuvent se tromper, se disent-ils. Donc, nous étions dans l'erreur. C'est ce qui était arrivé pour le curé de Chevry, pour sa sœur, Madame Veuve Clarisse Darié, et pour le jeune peintre Étienne Castel. Présents au débat, ils avaient entendu relever contre Jeanne tant de charges écrasantes, tant de preuves en apparence indiscutables, que leur conviction s'était modifiée du tout au tout. « Comme cette femme nous a trompés !» murmura Madame Darié en sortant de l'audience. « Nous chercherons à l'oublier, » dit l'excellent prêtre. « Nous chercherons surtout à ce que le cher enfant que nous aimons déjà ne sache jamais quelle souillure le crime de sa mère a mis sur le nom qu'il porte. » Il fut convenu entre le frère et la sœur que Madame Darié ferait sans tarder les démarches nécessaires pour adopter le petit Georges. Ces démarches, conduites rapidement, aboutirent au résultat voulu. Un arrêt du tribunal de Seine-et-Oise légalisa l'adoption du fils de Jeanne Fortier par la sœur du curé. L'enfant, à partir de ce jour, se nomma Georges Darié. On résolut de lui faire faire de sérieuses études. L'abbé Laugier fut son premier professeur et n'eut qu'à se louer du zèle de son élève, de son intelligence bien ouverte et de son étonnante précocité. Le frère et la sœur en raffolaient. Ils mettaient en lui toute leur tendresse et toutes leurs espérances. On oubliait Jeanne, plutôt on cherchait à l'oublier. Mais, outre Georges, on avait gardé un autre souvenir de son passage à la cure de Chevry. C'était le petit cheval de carton dont l'enfant n'avait point voulu se séparer et que Madame Darié conservait comme une relique précieuse. Des jouets tout neufs, plus grands et plus beaux, avaient pris la place de l'humble dada dans les affections de Georges. Jeanne, nous le répétons, s'était trouvée atteinte d'un véritable transport au cerveau en entendant prononcer sa condamnation. On avait dû la transporter immédiatement à l'infirmerie de la prison de Saint-Lazare. Une fièvre cérébrale s'était déclarée. Le danger fut immense, mais grâce à sa constitution vigoureuse, Jeanne triompha du mal. Pendant un mois, elle fut entre la vie et la mort, n'entendant rien, ne voyant rien, et surtout ne comprenant rien de ce qui se passait autour d'elle. La guérison vint cependant, mais lente et incomplète. En retrouvant peu à peu l'usage de ses sens et de la parole, Jeanne ne retrouva ni le souvenir, ni la plénitude de ses facultés mentales. De profondes ténèbres enveloppaient son cerveau où la mémoire s'était éteinte. Jeanne n'avait plus conscience ni du passé, ni du présent.